Bonjour à tous. Je remercie les actionnaires pour leur présence à cette assemblée mixte ordinaire et extraordinaire de la société Ribère, qui se tient exceptionnellement par audioconférence dans le contexte que vous connaissez évolutif de l'épidémie du coronavirus et de la lutte contre sa propagation. Je rappelle donc que cette assemblée se tient sur convocation du directoire à huis clos, sans présence physique des actionnaires et des autres membres, et personne ayant droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Constitution du bureau. Désignation des scrutateurs. Comme communiqué le 5 juin 2020, le directoire a désigné aux fonctions de scrutateur M. Laurent Paulet, membre du directoire et actionnaire de la société, et M. Cyril Combe, conseil en communication de la société Ribère. Désignation du secrétaire, M. Laurent Paulet remplira également les fonctions de secrétaire. Quorum. Dans le contexte de cette assemblée, les actionnaires de la société ont été invités à exercer leurs droits en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire ou à toute autre personne de leur choix en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance et par procuration prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la société. Les actionnaires qui se sont ainsi exprimés possèdent 11 388 884 actions sur un total de 21 039 797 actions ayant le droit de vote, soit 54,13% pour la partie ordinaire et la partie extraordinaire. Le quorum pour la partie ordinaire, c'est-à-dire plus du cinquième des actions, comme pour la partie extraordinaire, c'est-à-dire plus du quart des actions, est donc atteint. L'Assemblée a été convoquée conformément au statut de la loi et de société statut. La convocation est effectuée par avis préalable de cette réunion et avis de convocation inséré au ballot du 15 mai 2020 et 8 juin 2020, et par avis de convocation paru le 8 juin 2020 dans le journal d'annonce légale Le Parisien. En outre, l'avis de convocation prévu par la législation a été adressé le 8 juin 2020 par KCX Corporate Trust aux actionnaires titulaires d'actions inscrites en compte nominatif et remplissant les conditions requises par les statuts pour participer à cette réunion. Tous les documents prévus ont été joints à l'envoi des formules de procuration. Cette convocation a été régulièrement faite. Tous les documents prévus par la législation en vigueur ont été tenus à disposition des actionnaires sur le site internet de la société pendant les 21 jours qui ont précédé la présente réunion, ainsi qu'au siège social de la société pendant les 15 jours qui ont précédé la présente assemblée. Ils ont été également adressés à ceux des actionnaires qui en font la demande dans les conditions prévues par la loi. De tout ce qui précède, je déclare l'Assemblée générale ouverte. Lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour comprend donc dans son premier point la lecture des rapports du directoire, du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. Je rappelle qu'à titre ordinaire, l'Assemblée générale est réunie pour statuer sur les questions correspondantes aux résolutions 1 à 21 de l'ordre du jour, à savoir résolutions 1 à 5 sont relatives aux comptes sociaux et consolidés de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi que la distribution d'un dividende prélevé sur le compte prime d'émission, de fusion et d'apport. Les résolutions 6 à 14 sont relatives à des éléments de rémunération attribuables aux mandataires sociaux de la société. Les résolutions 15 à 17 sont relatives au renouvellement des mandats des membres du Conseil de surveillance. La résolution 18 est relative à la ratification de la cooptation d'un membre du Conseil de surveillance. La résolution 19 porte sur le montant de la rémunération annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice 2019. La résolution 20 porte sur une autorisation d'opérer sur les actions de la société. Et la résolution 21 porte sur le projet de transfert de la cotation des titres de la société Euronext vers Euronext Group et pouvoir donner au directoire. Je rappelle qu'à titre exceptionnel, l'Assemblée générale extraordinaire est réunie pour statuer sur les questions correspondant aux résolutions 22 à 25 de l'ordre du jour, à savoir la résolution 22 porte sur une autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la société. La résolution 23 porte sur une modification de l'article 15.1 des statuts concernant la limite d'âge applicable au président et au vice-président du Conseil de surveillance. Les résolutions 24 à 25 portent sur l'actualisation et la mise en harmonie des statuts de la société. Enfin, à titre ordinaire, l'Assemblée générale est réunie pour statuer sur les résolutions 26 et 27, à savoir la résolution 26 porte sur la nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance, la résolution 27 est relative au pouvoir pour formalité. Je passe donc la parole à Monsieur Philippe Lé, président du directoire, pour la présentation du rapport de gestion du directoire.
Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour à l'ensemble des actionnaires qui sont présents et je vous remercie à nouveau au nom du directoire pour votre présence. Monsieur le Président, donc, le directoire va présenter à l'Assemblée les faits marquants et les résultats de l'exercice 2019, ainsi que la stratégie et les perspectives pour la société. Donc je vais représenter, donc je vais faire une, je vais commencer, Monsieur le Président, par une présentation de la société Ribère dans un premier temps. Ensuite, on aura une présentation des résultats et par la suite, je reprendrai la parole après Monsieur Laurent Paulet, qui est directeur administratif et financier, pour expliquer les perspectives de la société. Donc Ribère est un acteur essentiel de l'industrie des semi-conducteurs. C'est le spécialiste des systèmes de production d'alliage semi-conducteurs et de dépôt de matériaux complexes. Donc Ribère est le leader mondial sur la partie machine d'épitaxie par gel moléculaire, autrement appelé en anglais donc MBE. Et en parallèle, Ribère a développé à partir des années 2010 un certain nombre d'évaporateurs qui permettent de déposer des couches extrêmement minces et avec une très bonne uniformité pour la fabrication de cellules solaires CIGS et d'écrans OLED. Les écrans OLED sont en particulier utilisés dans toutes les générations de téléphones portables de nouvelle génération type AMOLED et dans un certain nombre de télés haut de gamme. Ribère a une expertise technologique de pointe qui est reconnue au niveau mondial avec un certain nombre d'innovations clés en MBE et en parallèle, la société développe des partenariats avec des universités, des industriels pour le développement de nouvelles applications. Ça, j'y reviendrai dans la partie perspective. L'outil industriel, donc l'ensemble des équipements et des machines sont assemblés sur le site à Beson, en région parisienne. Nous avons 3 500 m² de surface avec 1 000 m² de salle blanche. La conception est réalisée entièrement en interne et l'assemblage également des machines et des composants est également complètement réalisé sur le site de Beson. Nous avons un achat de sous-traitants et de la sous-traitance pour les composants. Alors, la base installée de Ribère, c'est environ 750 machines en opération dans le monde. Plus de 90% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export et nous étions 122 personnes à fin 2019. Alors, les principaux champs d'application industriels des machines MBE de la société Ribère et des évaporateurs. Sur la partie machine MBE, nous avons l'électronique haute puissance qui est utilisée dans tout ce qui est télécommunications terrestres, 5G, 4G, Wi-Fi, dans les satellites, dans les smartphones. Sur la partie optoélectronique, donc transfert des données via fibre optique, donc nous avons tout ce qui est transmission des données, comme je vous l'ai dit, fibre optique, optique terrestre, sous-marin, tout ce qui est découpe laser, passivation laser et une application nouvelle, les LIDAR. Sur la partie capteur fin, donc c'est principalement les capteurs de visée nocturne, mais on a aussi une application pour le magnétisme et des infrarouges UV pour un certain nombre d'applications médicales. Et la dernière partie, donc qui n'est pas des machines de MBE, machines ultra-vite, c'est la partie écran où la société Ribère propose à des intégrateurs ou à des fabricants de machines des équipements qui permettent d'évaporer des couches minces, donc pour les cellules solaires en alliage CIGS, pour les écrans de smartphones et les tablettes, et également pour l'éclairage et la signalisation en OLED. La proposition de valeur de la société. Donc la proposition de valeur de la société, il y a trois grands axes de développement de la société. La première partie, la cible, c'est tout ce qui est laboratoire de recherche. Donc la société Ribère s'est développée dans les années 78 en proposant le premier système de MBE de recherche qui s'appelait le MBE 32 Et donc, depuis cette date, la société a continuellement développé des nouvelles machines, a pris en compte les demandes de clients pour les nouveaux matériaux, et nous avons l'offre la plus large du marché en type de machine de recherche. Ces machines sont très importantes parce qu'elles permettent de déterminer, je dirais, les composants du futur et par la même occasion, le type de machine utilisée pour ces composants du futur. La part de marché Ribère en 2019 était de 79%. La deuxième cible de la société et proposition de valeur, c'est ça s'adresse aux clients industriels au niveau MBE. Donc les clients industriels au niveau MBE, ce sont souvent des découvertes ou des améliorations qui ont été faites sur des machines de recherche et qui ont été transposées au niveau industriel. Donc là, nos clients sont répartis dans le monde entier et nous proposons des machines de grande capacité pour fabriquer des wafers épitaxiés d'alliage semi-conducteur. Également une offre très large que nous pouvons proposer à nos clients et notre part de marché l'année dernière était de 86%. La dernière axe de développement, c'est les industriels pour les évaporateurs. J'en ai déjà parlé, donc c'est la fabrication de machines de dépôt d'éléments chimiques en couche mince. Donc ça, c'est les besoins du client et nous lui proposons pour certains types de matériaux, par exemple pour le sélénium, pour les panneaux solaires, mais pour les OLED, c'est d'autres types de matériaux, nous proposons des évaporateurs industriels qui permettent de déposer sur des très grandes surfaces des matériaux en ayant des uniformités de dépôt extrêmement bonnes. La part de marché 2019 n'est pas accessible dans le sens où le marché est très disparate et très segmenté. Pour résumer, donc la concurrence est relativement limitée avec quand même de très fortes barrières technologiques à l'entrée. Le prochain slide, c'est une présentation de la base mondiale des clients Ribère. Donc au niveau université, centre de recherche, nous avons plus de 324 clients dans le monde entier, dans 38 pays, qui représentent environ 630 machines en opération. Donc voilà, donc la base installée sur les machines de recherche, c'est l'Europe, y compris la Russie, tout ce qui est Asie avec la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, et nous avons la dernière partie, c'est la grande partie, c'est aux États-Unis et Canada. Sur la partie industrielle, pour la partie MBE, donc 44 clients dans 10 pays, environ 120 machines en opération, donc un certain nombre de clients qui sont cités. Et sur la partie industrielle de dépôt en couche mince, nous avons 9 clients dans 4 pays. Donc là, les clients, nous avons des clients directs. Nos clients directs sont les fabricants de machines. Donc en particulier, on a Canon Toki pour la partie évaporateur cellule OLED et la société Singulus pour les évaporateurs CIGS. Nous avons en totalité plus de 2000 évaporateurs en fonctionnement dans le monde. Et nous avons un début de remise en état sur la partie chinoise des évaporateurs par notre filiale en Chine. Donc ça, c'est un business qu'on souhaite développer dans les prochaines années et qui a commencé en fin d'année 2019. Donc la dernière partie, c'est les revenus récurrents pour les services et accessoires. Donc la base de machines est relativement bien répartie, 28% en Amérique du Nord, 36% en Europe en comprenant la Russie et 36% en Asie. Donc ce sont des marchés qui sont captifs dans le sens où les clients ont besoin d'un support technique et scientifique pendant toute la durée d'utilisation de la machine ou des évaporateurs. Les clients nous demandent régulièrement une amélioration des performances des composants ou l'intégration de nouveaux composants à évaporer, nouveaux matériaux à évaporer. Nous proposons d'une façon régulière une évolution de l'ergonomie par des nouveaux automatismes ou des nouveaux logiciels de supervision et donc la montre de nouveaux composants, le remplacement de composants obsolètes. Le dernier point qu'on a développé en Europe ces dernières années qui est la maintenance curative et préventive, donc qui fonctionne bien avec nos clients industriels en Europe. Nous souhaitons et nous développons cette même approche et la même proposition de service à la fois aux États-Unis via notre filiale Riberink et à la fois en Chine via notre filiale RSTS. Les résultats annuels. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Paulet, qui est le directeur administratif et financier de la société et également membre du directoire.
Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les résultats annuels 2019 et des informations financières clés 2019. Donc, on commence par le chiffre d'affaires. 2019 est la troisième année de hausse consécutive de chiffre d'affaires depuis 2017. 2017 qui avait déjà vu une augmentation de son chiffre d'affaires de 86% par rapport à l'année précédente. Donc le chiffre d'affaires 2019 est en progression de 7% par rapport à 2018 et ce malgré la perte significative de chiffre d'affaires sur les évaporateurs avec une baisse de 10,6 millions d'euros sur 2019 par rapport à l'année précédente, lié à la fin d'un cycle d'investissement pour l'industrie des OLED. On observe une progression extrêmement importante du chiffre d'affaires des systèmes, donc plus 140% par rapport à 2018, avec 12 machines vendues dans l'année, dont 7 de production, contre 6 machines vendues en 2018, dont 3 de production. On note donc une confirmation de la dynamique du développement de l'activité MBE, qui compense le retrait cyclique des évaporateurs. A noter que les ventes de services sont en léger retrait en 2019 du fait d'un report de livraison et de facturation sur 2020. Concernant l'indicateur résultat opérationnel, le résultat opérationnel est en nette progression en 2019 par rapport à 2018, en dépit d'une baisse de la marge brute s'expliquant principalement par l'évolution du mix ligne de produits et des dépenses non récurrentes de mise en service de deux machines chez un client pour 0,5 million d'euros. Quant aux charges de structure, elles sont en diminution significative en 2019 en raison d'une part de la baisse de 1,1 million d'euros des charges administratives et ce est lié à la comptabilisation d'une charge non récurrente en 2018 s'agissant de l'attribution d'actions gratuites à un mandataire social et aux salariés de l'entreprise, impactant le compte de résultat consolidé pour 1,1 million. Et on observe aussi une plus forte capitalisation des dépenses de R&D qui reste cependant stable en valeur brute par rapport à l'année précédente. À noter aussi que les charges commerciales restent au même niveau que l'année précédente. Sur l'indicateur financier résultat net, donc le résultat net 2019 s'établit à 1,1 million d'euros contre 0,3 million d'euros en 2018, soit une progression de 800 000 euros. Je précise que les résultats fiscaux des différentes sociétés du groupe et l'imputation de leurs déficits reportables tant en France que dans chacune des filiales respectives ont permis de comptabiliser sur l'exercice une charge d'impôt quasiment nulle. En contrepartie, le groupe a constaté un impôt différé actif de l'ordre de 150 000 euros sur l'exercice, expliquant l'excédent du résultat net sur le résultat opérationnel. Il doit être précisé que les déficits fiscaux sur le groupe non activés au 31-12-2019 s'élèvent à 13,9 millions d'euros et correspondent à des économies d'impôts potentielles à venir sur les résultats fiscaux positifs des exercices à venir. Sur la structure financière de la société, donc on peut dire que les capitaux propres du groupe restent stables. Au niveau de la trésorerie sur 2018 par rapport à 2017, la dégradation s'expliquait notamment par l'augmentation des stocks d'encours à fin 2018 en lien avec la structure du carnet de commandes à fin 2018 composée d'une part prépondérante de machines, un cycle de production plus long que les évaporateurs, donc plus de machines dans le carnet de commandes fin 2018 par rapport à fin 2017. À fin 2019, la trésorerie est à un bon niveau puisqu'elle ressort à 5,9 millions d'euros, au bénéfice notamment d'une capacité d'autofinancement de plus de 2 millions d'euros dégagée sur l'exercice et d'une incidence positive de la variation du besoin en fonds de roulement qui est liée plus spécifiquement à la baisse des encours de stock du fait d'une prépondérance des commandes 2019 reçues sur le second semestre et d'un montant historiquement élevé d'acompte à la commande reçu et notamment grâce à la prise de commande sur le dernier trimestre 2019 d'un projet de plusieurs millions d'euros préfinancé en totalité à la prise de commande. Sur le slide suivant, donc le compte de résultat simplifié, donc on peut visualiser plus en détail l'évolution des différentes lignes du compte de résultat entre 2018 et 2019. Sur le chiffre d'affaires, d'une part, donc le chiffre d'affaires évaporateur est marginal sur 2019, alors qu'il représentait 37% du chiffre d'affaires sur 2018. En contrepartie, le chiffre d'affaires des systèmes représente 23 millions d'euros, soit une nette progression contre 9,6 millions d'euros en 2018, donc ce qui veut dire une progression de 140%. Sur la marge brute, le taux de marge est en baisse de 6 points avec une marge contributive en diminution de 1,2 million d'euros. Ceci est essentiellement dû à l'effet mixte qui est prépondérant et aussi en partie à l'effet de la courbe d'apprentissage de personnel recruté en 2019 dans le département production. Donc les coûts de structure en fait sont les fonctions support hors production, y compris R&D et commercial, sont en baisse de 1,8 million par rapport à l'année précédente, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Je reprécise, une stabilité des coûts de la fonction commerciale, une diminution des coûts de la fonction administrative, donc de 1,3 million, et une stabilité de l'effort de R&D avec cependant des coûts nets en baisse liés à une capitalisation des coûts plus importante sur l'année 2019. Donc au final, le résultat opérationnel est en hausse de 0,9 million d'euros et le résultat net est en hausse de 0,8 million d'euros, plus forte activation des impôts différés sur 2018 par rapport à 2019. Sur le bilan consolidé, on peut dire d'emblée que le total du bilan est relativement stable entre 2018 et 2019. On observe principalement les évolutions suivantes. Au passif du bilan, donc la dette fournisseur est en baisse. Donc on doit préciser qu'aucun arriéré fournisseur n'existe à fin 2019, alors que ce n'était pas le cas à la fin 2018. Et le point important aussi sur le passif du bilan, c'est une hausse de 3,2 millions des avances clients, donc liée, comme je l'ai précisé juste avant, à un projet important dont la commande a été reçue au dernier trimestre 2019 avec un préfinancement à hauteur de 100%. Sur l'actif du bilan, on note une baisse importante du niveau des stocks pour presque 4 millions d'euros. Il s'agit d'une part du stock des matières premières, mais surtout des encours. Le carnet de commandes à fin 2019 est constitué de commandes plus récentes en moyenne que le carnet de commandes 2018, et donc moins d'encours dans les stocks sur ces machines. On observe aussi une augmentation de 1 million d'euros des actifs financiers non courants. Il s'agit là du rachat d'un fonds de commerce acheté aux États-Unis, et aussi d'un dépôt sur un compte séquestre effectué pour garantir une garantie bancaire émise au profit de l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement en cours. Et enfin, le poste client est en baisse de 10% malgré une hausse du chiffre d'affaires. Donc là, on observe une plus grande systématisation du processus de relance client. Donc je vous présente maintenant les flux synthétiques de trésorerie donc au cours de l'année 2019. Donc on avait une position initiale fin 2018 de trésorerie de 2,5 millions. On atterrit à 5,9 millions d'euros, soit une augmentation de 3,4 millions d'euros, qui s'explique par les facteurs suivants. D'une part, la contribution positive de la capacité d'autofinancement à hauteur de 2 millions d'euros, Ensuite, comme signalé précédemment, une évolution favorable du besoin en fonds de roulement qui génère donc 4,2 millions d'euros de cash, notamment les stocks pour 3,8 millions, mais aussi le poste client. En contrepartie, donc, le poste fournisseur baisse un peu, et ainsi que certains autres postes du BFR, que sont les dettes sociales, fiscales et autres dettes. Donc, le cash généré par la CAF et la variation favorable du BFR ont en partie été consommés par des investissements nets à hauteur de 2,2 millions d'euros que je vais vous citer. Donc, il y a eu le rachat d'un fonds de commerce aux États-Unis, 350 000 euros. Il y a eu la capitalisation des frais de R&D bruts pour 526 000 euros. On a acheté aussi au cours de 2019 une licence auprès de Toulouse Tech Transfer pour piloter un dispositif innovant de dépôt des couches minces sous vide. Donc, c'est un coût de 102 000 euros. Et il y a eu aussi le coût lié à la fabrication d'une machine qui a été mise à la disposition d'un client US dans le cadre d'un accord de partenariat. Donc, l'impact en termes d'investissement, c'est 619 000 euros. Et enfin, l'acquisition de matériel et outillage chez Ribert pour 170 000 euros. On va passer donc à la slide suivante, la distribution proposée à l'Assemblée générale. Donc, il est proposé aux actionnaires une distribution prélevée sur le compte prime d'émission à hauteur de 3 centimes par action. Cette distribution fait office d'un remboursement partiel d'un apport préalable et n'est pas en tant que tel assujetti à l'impôt. Donc, ce n'est pas assimilé à un dividende qui, lui, est issu du bénéfice de la société et affecté préalablement en réserve. Le cours au 10 juin de l'action était de 1,54 euros et par rapport à ce cours, donc le rendement de l'action est de 1,9%, même si là, le terme de rendement est un peu impropre car il ne s'agit pas d'un dividende mais d'un remboursement d'apport initial dans la société. Donc, je redonne la parole à Philippe Lay pour présenter les slides suivants.
Ok, merci Laurent pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter les perspectives de la société et je vais commencer donc par faire un point sur la situation de la société pendant la période de confinement liée au Covid-19. On a adapté très rapidement l'organisation de la société dès les mesures du gouvernement du confinement avec l'interdiction de circuler sauf sous certaines conditions. Donc la société, j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs de la partie administrative, commerce, R&D et bureau d'études de prendre leur PC et de rentrer chez eux pour faire du télétravail pendant toute la période de confinement. Et sur la partie production, en accord avec Michel Picot, donc, qui s'occupe particulièrement de la production, nous avons organisé les équipes en deux postes, 6h, 14h, 14h, 22h. Donc, ça nous a permis de diviser le nombre de personnes sur le site par 4, donc de passer d'environ 110 personnes à environ 30 personnes. L'organisation informatique qui a été remise en place depuis l'année 2017 a fait son effet, dans le sens où l'ensemble des collaborateurs, y compris les collaborateurs du bureau d'études, ont pu travailler correctement et sereinement à distance pendant toute cette période de confinement. Donc nous avons pu maintenir la quasi-totalité des effectifs opérationnels pendant cette période et en parallèle, la production, donc les services de production, ont pu délivrer à la fois les machines et les accessoires. Nous avons quand même subi de la part de certains fournisseurs des retards pouvant aller de 1 à 2 mois. Donc ça nous perturbe et ça a perturbé les plannings de production du second trimestre, avec quand même en parallèle une réorganisation pour pouvoir anticiper d'autres productions et en ayant l'objectif de maintenir un chiffre d'affaires pour 2020 en ligne avec les prévisions qu'on avait en début d'année. Pour un peu documenter ce point, donc le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'élève à 5,3 millions d'euros. Il est en baisse par rapport à l'année dernière de 6,6. La grosse baisse est due en partie donc au niveau des systèmes. On a quand même eu des perturbations à la fois sur les livraisons de composants et aussi sur la possibilité d'exporter les machines dans certains pays avec des clients qui ont refusé dans un premier temps d'accepter d'assurer le transport des machines. Bon, maintenant c'est résolu. Donc la partie par contre service a été assez dynamique avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en regard au 1,7 du premier trimestre de 2019. Au niveau du commerce, donc c'est peut-être là où on subit sur la partie système la plus grande conséquence du Covid-19 et de l'arrêt des déplacements. Sur la partie des offres-services, je dirais qu'on a un bon maintien des offres-services, un bon maintien des prises de commandes. On a des clients qui sont, même en Europe, États-Unis, Chine, Japon, qui sont dynamiques, qui demandent des offres et qui passent des commandes. Sur la partie système, donc on a un décalage des prises de commandes, de certaines prises de commandes de nouvelles machines qui étaient prévues sur le deuxième trimestre ou le troisième trimestre 2020. Et pour l'instant, on ne table pas sur une reprise avant septembre 2020. Donc on attend avec impatience la réouverture de la totalité des déplacements. Pour mémoire, il est possible par exemple de se déplacer en Europe actuellement, mais en Chine, on a toujours l'ambassade de Chine qui refuse de nous délivrer des visas pour l'instant. On espère donc une reprise, je dirais, normale, quasi normale, début septembre ou mi-septembre. Donc, pendant cette période, alors on a quand même montré donc le carnet de commandes qui a baissé ce premier trimestre 2020, fin 31 mars par rapport à 2019. Donc, une baisse significative au niveau des systèmes. Au niveau des accessoires et services, se maintient à un bon niveau. Alors, sur les systèmes, on a eu également... donc ça a été communiqué à l'ensemble du marché, le refus de l'administration française de nous délivrer des licences pour deux clients correspondant à trois machines. Donc on a dû baisser, recalculer notre chiffre d'affaires à fin mars avec, en tenant compte de cette nouvelle et cette décision de l'administration française. Donc Liber applique les lois, bien sûr, liées à l'exportation des biens double usage. Les machines Ribère sont classifiées comme des biens double usage. Actuellement, donc, nous travaillons donc, avec Michel Picon, on travaille avec la SBDU, qui est le service de l'administration française en charge des exportations, pour avoir, je dirais, une anticipation et une visibilité plus grande sur l'obtention ou non des licences dans le futur. Au niveau de la trésorerie, donc bien sûr, la société a été extrêmement vigilante sur la trésorerie pendant cette période trouble. On a fait une demande de prêt auprès de l'État, donc du prêt garanti par l'État, donc un prêt de 6 millions d'euros que la société a obtenu en totalité. Donc, la partie axe stratégique. Donc la société n'a pas du tout limiter ou réduit tous les investissements et les engagements pris avec l'ensemble de nos partenaires pendant cette période de confinement et pendant, je dirais, toute l'année 2020. L'objectif, c'est pas de ralentissement des programmes de recherche, voire une accélération si possible et si nécessaire. Sur la partie laboratoire de recherche, notre objectif, c'est toujours donc d'avoir une part de marché supérieure à 60%, de renforcer les avantages compétitifs de nos machines et de poursuivre les innovations avec des partenaires et des laboratoires pour proposer à la fois des nouvelles cellules, des nouveaux équipements ou des nouveaux procédés. Sur la partie industrielle, donc c'est préparer les nouveaux marchés pour la MBE, les nouveaux marchés du futur, donc avec la fourniture de démonstrateurs à un certain nombre de partenaires. J'y reviendrai par la suite. Sur la partie évaporateur, on est en cours de développement d'un évaporateur linéaire moyenne température. Les études sont complètement terminées. Donc nous sommes en phase de début d'industrialisation et de discussion avec des partenaires éventuels pour la mise au point de cet évaporateur linéaire. Et le dernier point pour les industriels, c'est élargir les applications et le portefeuille client. Sur les services et accessoires, donc accroître le chiffre d'affaires de 35% dans les 3 ans, identifier les nouveaux produits d'appel par l'innovation, donc de créer des nouveaux besoins à nos clients, d'expliquer que la MBE peut faire d'autres choses, évaporer de nouveaux matériaux, avoir des rendements meilleurs, une uniformité meilleure, donc de motiver nos clients et de convaincre nos clients à faire évoluer leurs machines ou à acheter de nouveaux équipements de Ribair. Et aussi également accroître la couverture commerciale, donc nous avons actuellement un réseau mondial qui est couvert à la fois par nos 3 succursales, donc 3 filiales qu'on a, donc à la fois en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis. On a aussi un certain nombre d'agents dans le monde et un distributeur exclusif au Japon. Donc on a une couverture mondiale reconnue et on est en train d'accroître ce réseau, de le motiver à vendre de plus en plus d'équipements et d'accessoires dans le monde entier. Sur la partie chinoise, comme je vous l'ai déjà dit, donc notre filiale RSTS s'est dotée d'un atelier de remise en état de cellules. Et donc, nous sommes tout à fait aptes aujourd'hui à proposer à nos clients de l'industrie des évaporateurs, des remises en état des évaporateurs sur place en Chine. Et dans un deuxième temps, avant la fin de l'année 2020, nous aurons une offre de service complète pour les utilisateurs de systèmes MBE en Chine. Les principaux projets stratégiques. Donc je reviens un peu sur la partie mise à disposition de démonstrateurs à certains partenaires. Donc ces projets stratégiques ont été initiés il y a maintenant 2 à 3 ans. La société continue bien sûr ces projets et compte les mener à bien dans les années futures. Le premier projet, c'est le développement du MBE 8000, qui est la plus grosse machine de MBE au monde. Donc le réacteur est en cours d'assemblage, en cours de fabrication. Il sera assemblé chez Ribair au cours du mois de juillet et une livraison du système à notre partenaire américain au cours de l'année 2020. Donc ce MBE 8000 est dédié dans un premier temps à la fabrication de Vixels. Le C21DZ, donc ça c'est une machine qu'on a livrée à un laboratoire américain pour des oxydes. Donc nous continuons le développement avec ce laboratoire et la mise au point de la machine. Elle a été livrée l'année dernière. EasyCurve, donc c'est un système de mesure de courbure. In situ, donc ça permet de suivre les couches épitaxiées en cours dans la machine et de détecter si le wafer se courbe ou pas et de mesurer la courbure du wafer. Ce programme EasyCurve est une des briques de développement qu'on a en cours, ce qu'on appelle le Dream MBE, qui est un développement global d'une interface homme-machine permettant de contrôler et de piloter la machine d'une façon extrêmement simple. On a en parallèle donc l'amélioration de cellules de diffusion avec des nouveaux modèles qui sont actuellement en cours de test chez des clients. Notre évaporateur linéaire, que j'ai déjà parlé, moyenne température, qui est actuellement en cours de fin d'étude, cours de lancement. Sur la partie projet collaboratif, donc nous avons 3 projets collaboratifs. Le premier, c'est sur le MBE 8000 avec IntelliEPI aux États-Unis, donc pour des Vixels. Le deuxième projet, c'est donc IMEC, qui est un laboratoire belge, qui est spécialiste dans l'industrie silicium pour tous les nouveaux process des nouveaux composants du futur. Et en partenariat donc avec ce laboratoire, IMEC a mis à disposition, a remis en état plutôt, pour être ainsi dire, une machine qui appartenait à ce laboratoire, une machine MBE 49, et qu'il a prédisposée pour pouvoir faire des alliages antimonures, utilisés en particulier pour la réalisation de LIDAR ultra performant. Donc le LIDAR, c'est le laser qui permet de détecter les collisions autour des véhicules autonomes. Le dernier projet collaboratif, qui est le plus avancé des trois, puisque la machine est en cours d'utilisation, en cours de qualification, et nous avons des premiers résultats. Donc c'est le CNRS ou CREA qui est à Valbonne dans le sud de la France. Donc la fabrication d'alliages nitrure pour à la fois les transistors de puissance, les diodes UV et les microLED. Donc là-dessus, la société peut communiquer, donc a communiqué avec, moi c'est plutôt Isigan qui est notre partenaire, qui a communiqué le 15 juin sur leur site internet la réalisation d'un premier wafer 200 mm d'une très bonne qualité. Donc tout le monde peut y accéder en tapant donc Isigan, E-A-S-Y-G-A-N sur internet, sur Google. Notre potentiel de développement est intact malgré la crise. Donc pourquoi ? Donc on a un leadership reconnu, un haut niveau d'exigence technologique, une barrière à l'entrée qui est importante, des marchés finaux des technologies de l'information qui restent très importants. Et donc en Chine par exemple, on a quand même, malgré le ralentissement des prises de commandes, on a des contacts extrêmement soutenus avec un nombre d'acteurs importants pour des achats de machines dans le futur. On a donc des fortes opportunités à court et à moyen terme, des créations de valeur accrue avec les nouvelles applications industrielles qu'on est en train de développer actuellement. Notre organisation est assez agile et réactive, donc c'est lié à la taille de l'entreprise qui reste modeste, mais on a bien vu que dans la période de confinement et du Covid, on a pu réagir rapidement et rester très disponible vis-à-vis de nos clients. On a communiqué rapidement sur l'organisation de la société et nos clients ont perçu ça d'une façon très positive, ont continué à faire appel à nous, à la fois pour des offres et aussi pour des interventions qui ont pu reprendre mi-mai. Et une dimension résolution internationale, puisqu'on est à plus de 90% de chiffre d'affaires réalisé à l'export avec une implantation via nos agents et nos filiales dans le monde entier. Donc l'ambition de River, c'est de continuer le développement qui a été entamé il y a 2-3 ans sur les prochaines générations de composants composants semi-conducteurs, d'alliages semi-conducteurs pour l'industrie des semi-conducteurs. Voilà. Donc j'en ai fini avec la présentation des perspectives. Laurent, il y a un petit encart sur la partie actionnariat.
Donc, je vais vous présenter donc la Ribère en bourse et la structure du capital. Donc Ribère est détenu à environ 45% par deux actionnaires de référence qui détiennent chacun plus de 20% des actions. Il y a un autre actionnaire qui détient un peu plus de 5% du capital. Les institutionnels, société OPCVM, représentent environ 6% du capital de la société et le reste du capital est détenu principalement par des particuliers petits porteurs, dont un certain nombre d'entre eux détient plus de 100 000 actions. Donc sur le cours de bourse de la société, il était au 10 juin 2020 de 1,54 euros. Ce qui représente une capitalisation boursière de la société à hauteur de 33 millions d'euros. Donc j'enchaîne avec notre projet de transfert de cotation sur le marché Euronext Growth. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Euronext Growth est devenu le marché de référence pour les PME en croissance small et mid-cap. D'ailleurs, Euronext encourage les sociétés de la taille de Ribère avec leur niveau de capitalisation boursière à transférer leur cotation sur Euronext Growth. Il doit être souligné que le passage sur Euronext Growth ne donne pas lieu à une décote du côté des investisseurs et n'aura pas d'impact significatif sur la liquidité de l'action. Donc ce transfert permettra, s'il est approuvé, il permettra de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers et de ne plus faire face à une complexité croissante de la législation qui s'impose aux sociétés cotées sur le marché réglementé Euronext et les coûts générés par cette réglementation. Donc il y a un allègement significatif qui est attendu de certains coûts liés à cette nouvelle cotation sur Euronext Growth. Donc figure dans l'ordre du jour de cette assemblée une résolution soumise au vote des actionnaires autorisant le transfert de la cotation des titres de la société vers le marché organisé Euronext Growth, plus approprié à la taille de la société. Et donc, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale et de l'accord d'Euronext, le transfert des titres Ribert vers Euronext Growth serait effectif dans le courant du mois de septembre 2020. Et il doit être par ailleurs précisé que Ribert continuera à adopter le référentiel international IFRS, notamment, et à produire le même niveau d'information au marché que précédemment. Donc, je vous remercie pour votre attention et redonne la parole à Monsieur le Président.
Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion établi par le directoire au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019, vous est présenté en application au dernier alinéa de l'article L225-68 du Code de commerce. Je rappelle que ce rapport figure en page 51 et suivante du rapport annuel 2019. Je propose de ne pas en faire lecture. L'objectif de ce rapport est principalement de rendre compte des différents aspects de la gouvernance mise en place par la société Ribert, de présenter les informations concernant les mandats et fonctions exercées par les mandataires sociaux de Ribert dans toute autre société, ainsi que les aspects relatifs à la rémunération de ces mandataires sociaux et d'exposer notamment le texte du projet de résolution à l'Assemblée générale relative à cette rémunération. Ce rapport expose également les informations concernant les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange. Il comporte en outre les observations du Conseil de surveillance sur le rapport de gestion établi par le directoire. Nous vous rappelons enfin que la société se réfère depuis la fin du mois d'octobre 2018 au Code du gouvernement d'entreprise Euronext, disponible sur le site internet de Euronext. Le présent rapport met en exergue, conformément à la loi, les recommandations du dit code que la société a décidé d'écarter et les raisons ayant motivé cet écart. Ce rapport fait l'objet d'un rapport établi par les commissaires aux comptes de la société. Aussi, je donne maintenant la parole au directoire et aux commissaires aux comptes pour la lecture résumée de leurs différents rapports.
Alors, préalablement donc à l'intervention des commissaires aux comptes, je ferai un commentaire rapide sur le rapport spécial du directoire sur les attributions gratuites d'actions. Donc, conformément aux dispositions de l'article 225-197-4 du Code de commerce, nous avons communiqué les informations relatives aux opérations d'attribution gratuite d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au sein de la société Ribert. Donc, ce rapport est disponible sur le site internet de la société. La société n'a procédé en 2019 à aucune attribution gratuite d'actions. Donc, je laisse la parole au commissaire aux comptes pour la synthèse de leur rapport.
Merci, Monsieur Paulet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les actionnaires, au nom du Collège des commissaires aux comptes RSM et KPMG, nous allons vous rendre compte de notre mission sur l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés et sur les conventions réglementées ont été tenus à votre disposition par la société. Alors, je vous propose, comme le veut l'usage de cette assemblée, de vous en résumer les termes. Je vais présenter les rapports sur les comptes annuels et consolidés et mon confrère présentera le rapport sur les conventions réglementées. Concernant le rapport sur les comptes annuels de Ribert S.A., ces comptes ont été préparés selon les principes comptables français et ils sont certifiés par nos deux cabinets sans réserve et sans observation. Le fondement de notre opinion repose notamment sur deux justifications d'appréciation que l'on appelle les points clés de l'audit et qui, pour votre société, concernent l'évaluation des encours de fabrication qui pèsent au bilan à hauteur de 4,4 millions d'euros, ainsi que l'évaluation des titres de participation et des créances rattachées relatives à votre filiale Ribert Inc. aux USA et dont le montant net s'élève à 3,6 millions d'euros. Lors de notre audit, nous sommes ainsi conduits à réaliser des travaux visant à apprécier les méthodes d'évaluation mises en place par la direction et le montant des provisions comptabilisées. S'agissant des vérifications spécifiques, nous vous confirmons que toutes les informations prévues par la loi ont bien été fournies par Ribert S.A. à ses actionnaires et que nous n'avons pas ce type d'observation sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations financières qui figurent dans le rapport de gestion. Concernant notre rapport sur les comptes consolidés du groupe, ils sont établis selon le référentiel international IFRS et ils sont également certifiés sans réserve. Ce rapport est assorti d'une observation technique relative à l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable appelée IFRS 16 et relative aux contrats de location. Nous avons considéré pour ces comptes consolidés comme point clé de notre audit les estimations significatives de la direction, à savoir, comme pour les comptes sociaux, l'évaluation des encours de fabrication, l'évaluation du goodwill dont le montant s'élève à 1,3 million d'euros qui a fait l'objet d'un test de valeur, comme c'est la norme pour chaque clôture annuelle. Et enfin, dernier point clé de l'audit, l'évaluation et la comptabilisation des impôts différés, le montant d'impôts différés actifs au bilan étant de 1,9 million d'euros. Nous vous rappelons que l'objectif de notre mission est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes et que ceci ne comporte pas d'anomalie significative. Je passe la parole à mon confrère pour la lecture du rapport spécial.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donc vous présenter le rapport spécial, mais également notre rapport sur les propositions de délégation de pouvoir pour réduction de capital qui vous sera présenté dans la résolution 22 de cette Assemblée. Alors, pour ce qui est du rapport spécial, je vous rappelle qu'il est demandé au commissaire aux comptes de communiquer sur la base des informations qui lui ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles, les motifs justifiant l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés. Donc, je vous rappelle que ce sont les conventions qui sont signées entre votre société et des sociétés qui auraient des dirigeants communs avec votre société. Les diligences que nous effectuons consistent essentiellement à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les deux documents de base qui sont issus de ces conventions et qui nous sont présentés à cette Assemblée générale. Alors, s'agissant de l'exercice, les choses sont assez simples puisque nous n'avons pas eu connaissance, il n'y a pas eu de convention nouvelle sur l'exercice, donc vous n'aurez pas de résolution concernant de nouvelles conventions. En revanche, il y a eu des conventions qui ont déjà été approuvées par votre Assemblée et qui ont continué à poursuivi sur l'exercice, pardon. Ce sont quatre conventions, deux conventions qui sont liées à un membre de votre directoire qui est votre directeur général et deux conventions qui concernent Ribéric. Alors pour ce qui est des conventions qui concernent un des membres de votre directoire, votre directeur général, ce sont des conventions assez classiques. Il y en a une dont l'exécution s'est poursuivie qui est en fait un dispositif qui lui permet d'être affilié au régime de base complémentaire santé et de prévoyance de votre société. Rien de bien particulier. En définitive, ça lui permet d'avoir accès à ce régime de la même manière que les salariés. Et puis, il y a une deuxième convention qui, elle, n'a pas produit d'effet sur l'exercice, qui est une convention qui prévoit une indemnité forfaitaire de départ en cas de révocation. Là aussi, on est sur des choses assez naturelles. Il est prévu un dispositif qui lui permet d'obtenir 24 mois de rémunération dans ce cas-là. Concernant les conventions qui concernent la société River Inc., ce sont deux conventions qui n'ont pas eu d'effet sur l'exercice. La première convention, c'est un accord de plafond d'engagement sous forme de caution aval ou garantie à hauteur de 8 millions d'euros. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu lieu de l'utiliser sur l'exercice. Et une convention d'assistance qui n'a pas été suivie de fait également sur l'exercice. Pour ce qui est du rapport sur la réduction de capital, votre directoire vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente assemblée tout pouvoir pour annuler dans les limites de 10% de son capital par période de 24 mois les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article précité. Notre rapport est destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction de ce capital envisagé. Donc, nous avons étudié ces dispositions et nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette réduction envisagée. Je vous remercie pour votre attention.
Je remercie les membres de l'AFA, le président ainsi que les commissaires aux comptes pour leur exposé. Nous allons passer aux questions écrites.
Oui.
Le président de
D'accord. Donc, Monsieur le Président, nous avons reçu une seule question écrite de Monsieur Francis Lescarré. Donc, je vous lis la question en globalité et ensuite j'apporterai des éléments de réponse. Donc, la question. La manifestation des symptômes du virus du Covid-19 nous fait traverser une période mouvementée à divers titres et à divers niveaux. Actionnaires, partenaires et collaborateurs de Ribère et outre notre intérêt industriel, nous sommes tous animés d'un esprit scientifique. Par lui, nous connaissons chacun par nos expériences respectives, études, activités de recherche et ou enseignement, les joies de la découverte de résultats et la frustration de recherches non abouties. Nous avons ainsi tous des capacités importantes pour apprécier, c'est-à-dire comprendre et accepter, les aléas du hasard qui parfois nous est favorable et parfois défavorable. Toute période de turbulence est propice à l'émergence de nouvelles idées et à la manifestation de comportements atypiques de l'environnement, tels que des changements de comportement de clients. Donc la question, avons-nous eu la chance que cette période mouvementée soit source d'innovation pour notre groupe? Donc j'ai tâché de répondre à cet actionnaire. Donc nous, ce qu'on a constaté pendant la période de confinement, ce qui est clairement établi par l'ensemble des sociétés, c'est le non-déplacement ou la limitation de déplacement nous a conduit à utiliser d'une façon beaucoup plus active tous les outils numériques. Ce qu'on a constaté, donc, ce que Ribère était déjà prêt et Ribère faisait depuis de nombreuses années, nos clients, même les clients les plus réticents, ont été obligés de s'y mettre et d'utiliser ces outils numériques d'une façon beaucoup plus régulière. On a constaté ça avec déjà notre service commercial qui maintenant a régulièrement des réunions avec l'ensemble de nos clients lors de négociations. Par exemple, dans certains pays du monde où les clients imposaient le déplacement du commercial pour signer des contrats ou pour dénégocier des contrats, on est en phase d'aboutir à pouvoir au moins anticiper une partie des discussions via vidéoconférence. Donc je dirais le mouvement que nous on peut constater et qu'on va développer et profiter, c'est donc l'utilisation de tous les outils numériques pour à la fois contacter plus de clients d'une façon plus régulière, pour apporter un support même au niveau service à nos clients via ces outils numériques. C'est-à-dire, par exemple, en Chine, on a pu démarrer des machines à distance avec des techniciens chinois sur place. Donc, quelque chose qui n'était pas du tout envisageable avant la période du Covid-19. Les clients ne l'acceptaient pas. Les clients ne mettaient pas à disposition de nos techniciens sur place les outils ou les liaisons Internet. Donc, on a eu la possibilité de faire ça pendant cette période. Donc, je dirais, en résumé, en conclusion, le changement d'attitude de certains de nos clients, voire de l'ensemble de nos clients, va permettre à la société de développer beaucoup plus rapidement un ensemble d'outils numériques. Donc, ces outils numériques, c'est à la fois les outils que tout le monde connaît de visioconférence, mais c'est aussi des portails de services qui sont extrêmement utiles pour nos clients, avec des mots de passe, des connexions dédiées à chaque client qui permettent d'accéder, par exemple, à l'ensemble des catalogues des produits que les clients ont sur site, à l'ensemble des offres que nous avons émises, etc., etc. Donc, la société va, d'ici la fin de l'année, continuer un virage qu'on a entamé depuis un certain nombre d'années, mais avec, je dirais, de la part de nos clients, une écoute beaucoup plus importante que dans le passé. Alors, j'ai un exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid que j'ai déjà parlé donc avec Easygan. Easygan, donc la performance qui a été obtenue au sein du laboratoire CREA à Valbonne, un laboratoire du CNRS, avec qui on a un partenariat également donc entre Ribère, le CREA et la société Easygan. Cette performance a été obtenue en partie en utilisant ces outils numériques, puisque dans un premier temps, les chercheurs du CREA ont continué à travailler sur la machine avec un support de la société Ribère à distance. dès qu'on a pu se déplacer, donc dès le 11 mai, nos chercheurs, nos ingénieurs d'application ont revoyagé et ont pu se rendre sur le site du CREAM. Ils disent, dans la période de fin mars à mi-mai, bah, tout s'est fait via ces outils numériques. Monsieur le Président, il n'y a pas d'autres questions.
Je propose de passer au résultat des votes de résolution et je donne la parole au secrétaire de séance pour la synthèse de ce résultat, Monsieur Pauli.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je rappelle que l'Assemblée est réunie pour voter sur des résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire. Nous allons tout d'abord procéder à la lecture du résultat des votes des résolutions décidées par l'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, c'est-à-dire à la majorité simple. Première résolution, approbation des comptes sociaux annuels de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes de la société faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 516 687,54 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Donc le résultat du vote est le suivant, pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés. Aucune abstention, la résolution est adoptée à l'unanimité. Seconde résolution, affectation du résultat de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cette résolution a pour objet de proposer de procéder à l'affectation du bénéfice de 516 687,54 € au compte report à nouveau, ainsi porté de moins 5 366 590,57 € à moins 4 849 903,03 €. Le résultat du vote est le suivant, pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, la résolution est donc adoptée à l'unanimité. Troisième résolution. Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Cette résolution a pour objet de constater qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices clos le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, et le 31 décembre 2018, étant toutefois rappelé que l'Assemblée générale du 21 juin 2018 a décidé de procéder à une distribution prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 0,05 € par action, soit une somme totale de 1 047 253,50 € effectivement distribuée. Deuxième point, l'Assemblée générale du 27 juin 2019 a décidé de procéder à une distribution intervenue en juillet 2019 prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 0,03 € par action, soit une somme totale de 621 188,94 € effectivement distribué, ainsi qu'une distribution intervenue en septembre 2019 prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 0,02 € par action, soit une somme totale de 419 544,18 € effectivement distribué. Donc le résultat du vote est le suivant, pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, pas d'abstention. La résolution est adoptée à l'unanimité. Quatrième résolution. Distribution d'une somme prélevée sur le compte prime d'émission de fusion et d'apport à concurrence de 3 centimes d'euros par action. Cette résolution a pour objet d'approuver une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 3 centimes par action, soit sur la base d'un capital composé de 21 253 024 actions au 31 décembre 2019, d'une somme totale de 637 590 € et 72 centimes. Si le nombre d'actions ouvrant droit à cette distribution s'avérait inférieur, notamment du fait des actions autodétenues par la société, ou supérieur à 21 253 024 actions, le montant affecté à cette distribution serait ajusté à la baisse ou à la hausse et le montant prélevé sur le compte prime d'émission de fusion et d'apport serait déterminé sur la base des sommes effectivement mises en paiement. La date de mise en paiement de cette distribution est fixée par le directoire au 30 juin 2020. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 7 884 voix, soit 96,6% des votes exprimés. Contre 381 000 voix, soit 3,4% des votes exprimés. Aucune abstention. Donc la résolution est adoptée à la majorité. Cinquième résolution, il s'agit de l'approbation des comptes consolidés de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés du groupe Ribère, donc Ribère SA et ses filiales Ribère Inc., Ribère Semiconducteur Technologie Shanghai, nommé RSTS, et Ribère Korea, faisant apparaître un bénéfice de 1099 €, ainsi que les opérations ressortant des 10 comptes et rapports. Le résultat du vote est le suivant. Vote pour, 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention. Donc la résolution est adoptée à l'unanimité. Sixième résolution, approbation de la politique de rémunération du président du directoire en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code du commerce. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex ante la politique de rémunération du président du directoire en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code du commerce. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.1 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 185 384 voix, soit 98,2% des votes exprimés. Contre 203 500 voix, soit 1,8% des votes exprimés. Aucune abstention. La résolution est adoptée à la majorité. Septième résolution. Approbation de la politique de rémunération des membres du directoire, autre que le président du directoire, en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code de commerce. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex ante la politique de rémunération des autres membres du directoire en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code du commerce. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.1 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 10 804 384 voix, soit 94,8% des votes exprimés, contre 584 500 voix, soit 5,2% des votes exprimés. Aucune abstention, la résolution est donc adoptée à la majorité. Huitième résolution. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de leur président en raison de leur mandat au titre de l'exercice 2020 en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code de commerce. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex ante la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de leur président en application de l'article L225-82-2-1-1 du Code de commerce. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.1 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 6,033,173 voix, soit 52,9% des votes exprimés, contre 5,355,711 voix, soit 47,1% des votes exprimés, abstention 0. La résolution est adoptée à la majorité. Neuvième résolution. Approbation des informations mentionnées au 1 de l'article L225-37-3 du Code de commerce relative à la rémunération des mandataires sociaux. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux telles que mentionnées au 1 de l'article L225-37-3 du Code de commerce, en application de l'article L225-101 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.2 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 6,414,173 voix, soit 100% des votes exprimés. Abstention, donc contre 0 voix. Abstention, 4,974,711 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Dixième résolution. Approbation de la rémunération individuelle de M. Michel Picot, président et membre du directoire, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée à M. Michel Picot à raison de son mandat de président et membre du directoire pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.2.2 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11,388,884 voix, soit 100% des votes exprimés et aucune abstention. Donc la résolution est adoptée à l'unanimité. Onzième résolution, approbation de la rémunération individuelle de M. Philippe Lay, président et membre du directoire, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée à M. Philippe Lay, à raison de son mandat de président et membre du directoire, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.2.3 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11,388,884 voix, soit 100% des votes exprimés, 0 abstention et donc la résolution est adoptée à l'unanimité. Douzième résolution. Approbation de la rémunération individuelle de M. Michel Picot, membre du directoire, sans en avoir la qualité de président, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée à M. Michel Picot, à raison de son mandat de membre du directoire, sans en avoir la qualité de président, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.2.4 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention, et donc la résolution est adoptée à l'unanimité. 13e résolution, approbation de la rémunération individuelle de M. Philippe Lay, membre du directoire sans en avoir la qualité de président, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée à M. Philippe Lay, membre du directoire, sans en avoir la qualité de président, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 2.2.4 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention, et la résolution est donc adoptée à l'unanimité. 14e résolution, approbation de la rémunération individuelle de M. Didier Cornardo, président du Conseil de surveillance au titre de l'exercice 2019. Cette résolution a pour objet d'approuver par un vote dit ex post les éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée à M. Didier Cornardo, président du Conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2019. Le détail des rémunérations est indiqué au point 225 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Le résultat du vote est le suivant. Pour 6 414 173 voix, soit 100% des votes exprimés, abstention 4 974 711 voix, et donc la résolution est adoptée à la majorité. 15e résolution, constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Bernard Rabouté et proposition du renouvellement de son mandat. Cette résolution a pour objet de renouveler pour une période de 2 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Bernard Rabouté. Des informations nous concernant ont été publiées sur le site internet de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, la résolution est adoptée à l'unanimité. 16e résolution, constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Annie Geoffroy et proposition du renouvellement de son mandat. Cette résolution a pour objet de renouveler pour une nouvelle période de 2 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Annie Geoffroy. Les informations la concernant ont été publiées sur le site internet de la société conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 7 884 voix, soit 96,6% des votes exprimés, contre 381 000 voix, soit 3,4% des votes exprimés. Aucune abstention, la résolution est adoptée à la majorité. 17e résolution, constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Christine Monnier et proposition du renouvellement de son mandat. Cette résolution a pour objet de renouveler pour une nouvelle période de 2 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Christine Monnier. Des informations la concernant ont été publiées sur le site internet de la société conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 10 804 384 voix, soit 95% des votes exprimés. Contre 584 500 voix, soit 5% des votes exprimés. Abstention 0, la résolution est adoptée à la majorité. 18e résolution. Ratification de la cooptation par le Conseil de surveillance de M. Nicolas Grandjean en qualité de membre du Conseil de surveillance. Cette résolution a pour objet de ratifier la cooptation de M. Nicolas Grandjean faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance en date du 3 mars 2020 en qualité de membre du Conseil de surveillance de la société. Ce dernier s'est en effet retrouvé démissionnaire d'office de son mandat le 28 décembre 2019 suite à la non-détention d'un minimum de 100 actions en application de l'article 15 des statuts. Le Conseil de surveillance a donc souhaité sa cooptation le 3 mars 2020 qui est soumise à votre ratification. Des informations le concernant ont été publiées sur les sites internet de la société conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 185 384 voix, soit 98,2% des votes exprimés. Contre 203 500 voix, soit 1,8% des votes exprimés. Aucune abstention. Et la résolution est adoptée à la majorité. 19e résolution. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil de surveillance tel que visé à l'article L225-83 du Code de commerce. Cette résolution propose de fixer à 170 000 euros le montant de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice 2020 en application de l'article L225-83 du Code de commerce. Le résultat du vote est le suivant. Pour 4 880 173 voix, soit 42,85% des votes exprimés. Contre 6 508 711 voix, soit 57,15% des votes exprimés. Aucune abstention. La résolution est donc rejetée à la majorité. Et cela signifie qu'il n'y aura pas de rémunération pour les membres du Conseil de surveillance au titre de l'année 2020. 20e résolution. Autorisation d'opérer sur les actions de la société. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire à mettre en œuvre un programme de rachat d'actions par la société de ses propres titres. Et donc, les objectifs sont décrits dans les documents mis à disposition des actionnaires. La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourrait excéder 10% du capital social en application des dispositions de l'article L225-209 du Code de commerce. Le montant maximum du programme serait fixé à 3 millions d'euros. Le prix maximum d'achat serait de 10 euros par action, hors frais d'acquisition. Cette autorisation serait donnée pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020 et au plus tard 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 185 384 voix, soit 98,2% des votes exprimés, contre 203 500 voix, soit 1,8% des votes exprimés. Aucune abstention, la résolution est adoptée à la majorité. 21e résolution. approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la société d'Euronext vers Euronext Growth et pouvoir à donner au directoire. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire à transférer la cotation des titres de la société du marché réglementé d'Euronext Paris vers le marché Euronext Growth. Il est rappelé que la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris depuis le 8 mai 2005. Le directoire et le conseil de surveillance estiment que la présence de la société sur Euronext engendre une réglementation lourde et inadaptée à la situation de la société, sans offrir d'avantages particuliers en termes de valorisation ou de liquidité du titre. Un transfert vers Euronext Growth permettrait à la société d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille. Ce transfert devrait ainsi lui permettre de simplifier son fonctionnement et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de bénéficier des attraits des marchés financiers. Il est envisagé que le transfert s'effectue au plus tard en septembre 2020. Les conséquences d'un tel transfert en matière d'information financière sont décrites dans les documents mis à disposition des actionnaires. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 584 voix, soit 99,997% des votes exprimés, contre 300 voix, soit 0,003% des votes exprimés. Abstention 0, la résolution est donc adoptée à la majorité. Nous allons maintenant procéder à la lecture du résultat des votes des résolutions décidées par l'Assemblée générale à titre extraordinaire, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers. 22e résolution, autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la société. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire d'annuler en tant que de besoin en une ou plusieurs fois, toute ou partie des actions que la société détiendrait ou pourrait détenir en conséquence de l'utilisation des autorisations d'achat d'actions données par l'Assemblée générale au directoire dans la limite de 10% par période de 24 mois du nombre total des actions composant le capital social à la date de l'opération. Le directoire aurait ainsi délégation avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, de tout pouvoir pour réaliser là où les réductions du capital consécutives aux opérations d'annulation autorisées par l'Assemblée générale, pour en fixer les modalités et conditions, procéder aux imputations nécessaires sur tout poste de réserve, bénéfice ou de prime, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et généralement prendre toute décision et effectuer toute formalité. Cette délégation serait valable pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention. La résolution est adoptée à l'unanimité. Vingt-troisième résolution, modification de l'article 15.1 des statuts concernant la limite d'âge applicable au président et au vice-président du conseil de surveillance. À la suite d'un nouvel examen des statuts de la société par le directoire et le conseil de surveillance, ces organes ont estimé en date du 3 mars 2020 que la limite d'âge applicable au président et au vice-président du conseil de surveillance, actuellement fixée à 78 ans, devrait être relevée à 84 ans. En conséquence, cette résolution a pour objet de modifier à l'article 15.1 des statuts la limite d'âge applicable au président et au vice-président du conseil de surveillance et de fixer cette limite d'âge à 84 ans. Le résultat du vote est le suivant. Pour 6 210 373 voix, soit 96,8% des votes exprimés, contre 203 800 voix, soit 3,2% des votes exprimés. Abstention, 4 974 711 voix. La résolution est adoptée à la majorité. 24e résolution. Harmonisation de l'article 16 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dit pacte, ayant supprimé la notion de jeton de présence. Cette résolution a pour objet de mettre les statuts en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2019-486 du 22 mai 2019, dite pacte, qui a supprimé la notion de jeton de présence. Il est donc proposé dans cette résolution de modifier l'article 16 des statuts de la société pour remplacer au dit article la notion de jeton de présence par la notion de somme fixe annuelle. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés. Aucune abstention. La résolution est donc adoptée à l'unanimité. 25e résolution. Harmonisation de l'article 7.2 des statuts avec les dispositions de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dit pacte, ayant modifié la procédure d'identification des actionnaires. Cette résolution a pour objet de mettre à jour les statuts avec les dispositions de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dit pacte, ayant apporté des modifications à la procédure d'identification des actionnaires. Il est donc proposé dans cette résolution de mettre à jour les dispositions de l'article 7.2 des statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la dite loi. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention, et la résolution est donc adoptée à l'unanimité. 26 et 27 qui vont être exposées sont décidées par l'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, c'est-à-dire à la majorité simple. Donc la 26e résolution, nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance, proposition de M. Pierre-Yves Kilvasseur. Cette résolution a pour objet de nommer M. Pierre-Yves Kilvasseur en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance de la société pour une durée de 2 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le directoire estime que cette nomination permettrait au Conseil de surveillance de s'enrichir par l'adjonction d'un profil complémentaire et de bénéficier de l'expérience et de l'éclairage de ce dernier dans le cadre des décisions relevant de la compétence du Conseil de surveillance. Les informations concernant M. Pierre-Yves Kilvasseur ont été publiées sur le site internet de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 7884 voix, soit 96,6% des votes exprimés, contre 381 000 voix, soit 3,4% des votes exprimés, aucune abstention, la résolution est adoptée à la majorité. Enfin, la 27e résolution, la dernière résolution, pouvoir. La dernière résolution est usuelle et permet l'accomplissement des publicités et formalités légales consécutives aux décisions prises lors de l'Assemblée. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 388 884 voix, soit 100% des votes exprimés, aucune abstention. Et donc la résolution 27 est adoptée à l'unanimité. Donc je précise que le détail des votes sera communiqué ce jour sur le site internet de la société et je redonne la parole à Monsieur le Président afin de clore l'Assemblée Générale Mixte.
Bon, merci. Il faudrait simplement revenir sur le vote de la première résolution. Il fallait entendre 11 388 884, 60% des votes exprimés et non pas 11 388. Donc c'est bien 11 millions. Et 100% des votes exprimés pour la première résolution qui concerne l'approbation des comptes sociaux annuels de la société de l'exercice clos 31 décembre 2019. Ceci étant dit, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée.